France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Mathieu Laurent, rebonjour.
Rebonjour, Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Serions-nous à l'aube d'une prise de conscience au sujet des violences faites aux enfants dans la sphère périscolaire? 15 enquêtes ouvertes en 2025 pour des agressions sexuelles dans les écoles maternelles parisiennes, selon la procureure spécialisée du parquet de Paris, qui pointe une recrudescence importante du nombre de signalements, précision d'Aurélie Kiffer. Et puis, il faut souligner cette nouvelle approche parlementaire, articulée par une proposition de loi transpartisane sur le point d'être soumise aux députés. Son objectif, mieux prévenir, lutter contre et sanctionner les violences sexistes et sexuelles envers les femmes et les enfants. Nous retrouverons Anne Fauquemberg à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité internationale, un véritable séisme au sein d'état-major de l'armée israélienne. 3 hauts gradés en poste le 7 octobre 2023 viennent d'être limogés. Correspondance à Jérusalem de Michel Paul. La guerre en Ukraine, nous suivrons depuis Moscou les pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens. Le Kremlin affirme n'avoir reçu aucune information, mais la presse russe accueille très froidement les derniers développements. Et puis la guerre en Ukraine selon Trump. Invité du journal tout à l'heure, Maude Kessar, directrice du domaine Europe, Espace, Transatlantique, Russie, à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Des comportements maltraitants, brimades, insultes, humiliations, des violences sexuelles dans la sphère périscolaire. Combien de victimes, combien d'enfants emmurés dans le silence? Il est trop tôt pour évaluer le nombre de ces faits enfouis, avec entre autres difficultés les paramètres et vecteurs qu'il faut nommer et inclure pour comprendre et agir. Invité ce matin de nos confrères de France Inter, Emmanuel Grégoire, député socialiste et candidat à la mairie de Paris, a décidé de rompre ce silence. En ces termes, je suis quelqu'un qui porte une plaie intérieure depuis très longtemps. Une plaie silencieuse, comme sans doute des millions de Français. Cette histoire, c'est celle d'un enfant qui, en CM1, a subi des violences sexuelles pendant plusieurs mois, dans le cadre d'activités périscolaires, dans une piscine municipale, et sans qu'à l'époque, j'ai trouvé ni la force, ni les moyens, ni les mots de dire cette douleur et cette souffrance. Fin de citation. Bonjour Aurélie Kiffer.
Bonjour Mathieu.
Aurélie, Emmanuel Grégoire fait ses révélations au moment même où le secteur du périscolaire parisien est secoué par une série d'enquêtes, on l'a dit, pour soupçon d'agression sexuelle dans les établissements scolaires.
Oui, les affaires se sont succédées ces derniers mois concernant ce temps d'accueil avant et après l'école qui n'est pas géré par l'éducation nationale mais par la mairie. Alors y a-t-il plus de dérives ou une meilleure remontée des alertes? C'est difficile à dire, mais dans un entretien accordé à Libération, la chef du parquet des mineurs de Paris fait état de 15 enquêtes judiciaires ouvertes cette année dans la capitale pour violences sexuelles dans les maternelles. A noter que depuis la rentrée, 3 animateurs ont été suspendus dans la même école, soupçonnés respectivement de faits à caractère sexuel, d'exhibition et d'agression sexuelle, plutôt troublant. Cela mène d'ailleurs l'avocat d'une plaignante à s'interroger sur les conditions de recrutement des animateurs périscolaires. Il se trouve que le secteur est en pleine crise. Une grève a été lancée le 10 novembre pour demander des recrutements massifs de titulaires, car à Paris, la grande majorité des postes sont actuellement assurés par des vacataires et l'encadrement est très insuffisant.
Aurélie, comment la ville de Paris gère-t-elle cette crise?
La mairie assure que les animateurs sont soumis à des contrôles pour vérifier notamment qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, qu'ils ne sont pas inscrits au fichier d'auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Mais cette réponse ne pouvait évidemment pas suffire face à la colère grandissante des familles. Jeudi dernier, le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité un plan de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants dans les écoles. Ce plan prévoit notamment un renforcement des formations des animateurs. Une commission collégiale d'instruction des signalements doit veiller à la mise en œuvre des actions, comme la suspension immédiate d'un agent mis en cause. Et un poste de défenseur des enfants est créé, rattaché à la mairie, défenseur qui pourra être saisi par les enfants et leurs parents. Est-ce que ce sera de nature à rétablir la confiance? On le verra. Les parents d'élèves de la FCPE Paris, eux, ont décidé de prendre les devants en lançant une commission Agir contre les violences. Ils veulent créer un espace de signalement de toutes les formes de violences subies par les élèves et comptent réaliser un état des lieux dans l'espoir qu'ils contribuent à améliorer les dispositifs de prévention et de prise en charge.
Merci à vous, Aurélie Kiffer. Dans quelques minutes sera présentée à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes, et c'est inédit, commises à l'encontre des enfants. Une proposition de loi portée par la députée PS Céline Thiebaud-Martinez. 90% des affaires de viol sont aujourd'hui, il faut le savoir, classées sans suite. Cette proposition de loi, dite intégrale, est un texte transpartisan, hors RN et UDR, qui était largement issu des propositions de la société civile. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Ce texte, Anne, de 78 articles, traduit en effet de façon législative le travail d'une coalition d'associations féministes et enfantistes depuis un an.
Oui, cette coalition qui a réuni plus de 60 organisations est née en octobre 2024 en partant d'un constat, alors que depuis quelques années, le mouvement hashtag MeToo et les travaux de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont permis une prise de conscience de l'ampleur des VSS, les violences sexistes et sexuelles, la réponse institutionnelle demeure défaillante. Les VSS sont enracinés dans des rapports de domination encore très ancrés et cette coalition demande donc un changement de paradigme pour les politiques publiques, jugeant qu'en France, notre législation est morcelée et incomplète. Le texte entend réformer les institutions policières et judiciaires avec par exemple la création d'unités spécialisées au sein de la PJ, la mise en place d'un socle d'actes d'enquête devant être obligatoirement réalisé pour éviter les classements sans suite. Il est aussi question de supprimer le devoir conjugal, de modifier le système actuel de la prescription glissante ou encore de remettre un jury populaire pour juger les affaires de viol. Au niveau des enfants, on peut citer l'instauration d'un entretien individuel avec les élèves à l'entrée de la maternelle ou encore la création d'un crime spécifique d'inceste. Le texte renforce également la notion de consentement à l'hôpital pour éviter les violences obstétricales et gynécologiques. Et puis, il y a un volet sur le cyber, imposé par exemple aux plateformes le retrait sur 48 heures de tout contenu intime diffusé sans consentement.
On a bien pris la mesure de ce texte ambitieux, mais quelles sont ses chances d'aboutir, Anne ?
Alors, si le texte a peu de chances d'être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il devrait revenir rapidement dans le débat au travers d'un projet de loi cadre porté par la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger. Un projet de loi qui est toutefois accueilli avec méfiance par les associations qui demandent de réels moyens financiers. La Fondation des femmes, par exemple, estime à 2,6 milliards d'euros par an le budget minimum que l'État devrait consacrer à la protection des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles. Cela représente 0,5% du budget de l'État.
Merci à vous, Anne Fauquemberg, en direct de l'Assemblée nationale.
Des chances d'aboutir, c'est la question récurrente qui hante les bancs des chambres.
Et c'est aujourd'hui la chambre haute, le Sénat, qui entame l'examen patiné du budget de l'État en commission des finances. L'ascension de cette voie est à ce point délicate, pour ne pas dire illisible, que le Premier ministre, qui consulte dans l'après-midi les partis, a décidé de prendre la parole après l'échec du vote sur le budget intervenu dans la nuit de vendredi à samedi. Sébastien Lecornu, c'était il y a un peu plus d'une heure à Matignon.
Certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale. Et derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui bloque la situation. On l'a vu notamment dans les comportements de la France insoumise et même parfois du Rassemblement national. Donc au fond, on le voit bien, il faut que celles et ceux qui veulent avancer arrivent à rompre les ponts et à ne pas se laisser contaminer par les forces politiques qui, elles, promeuvent ce blocage. Alors en méthode, je vais recevoir l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les prochains jours. Et puis, pour la première fois depuis le mois de septembre, de nouveau, un certain nombre de réunions avec les partenaires sociaux représentant les syndicats salariés, mais également du patronat. On va y arriver, ai-je dit, dans cette même cour de Matignon, il y a de cela quelques semaines. La réponse est toujours oui, nous pouvons y arriver, à la condition d'y travailler, de sortir aussi de cette situation de blocage politique que certains veulent installer comme étant, au fond, une toile de fond à la prochaine élection présidentielle. Ce gouvernement, vous le savez, n'a aucun autre agenda, si ce n'est de permettre à la France d'avoir un budget pour l'État et pour la sécurité sociale pour l'année prochaine.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu, nous reviendrons plus en détail sur ses propos dans notre journal de 18h.
C'est probablement la plus lourde vague de limogeage de gradés israéliens depuis le 7 octobre 2023.
Il est question de 3 généraux à des postes clés ce 7 octobre et de sanctions disciplinaires contre plusieurs autres à cause de leur échec à empêcher ce jour-là l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue Israël. Selon l'armée, les trois hommes portent chacun une responsabilité personnelle dans l'échec de l'institution militaire à voir venir et à repousser l'attaque lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas à partir de la bande de Gaza sur le sud d'Israël. Les précisions depuis Jérusalem de Michel Paul.
C'est un véritable séisme au sein de l'état-major israélien. L'armée reconnaît officiellement l'échec de ses cadres à avoir empêché l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays et annonce le limogeage définitif de trois figures clés de cette période. Le général Aaron Khalifa, l'ex-chef des renseignements militaires, le général Oded Bastiouk, ancien chef des opérations, et le général Yaron Finkelman qui commandait la région sud ce jour-là. Ils sont rayés des cadres de réserve et ne font plus partie de l'armée. Cette décision du chef d'état-major fait suite à un rapport d'experts accablant, publié début novembre, qui pointait une défaillance systémique de longue date. Le ménage ne s'arrête pas là. Les chefs actuels de l'armée de l'air et de la marine, ainsi que 8 autres officiers supérieurs, sont eux aussi visés par des sanctions disciplinaires. Les familles des ex-otages ne sont pas satisfaites de ces mesures et demandent des peines d'emprisonnement pour les principaux responsables. Elles réclament surtout la mise en place d'une commission d'enquête désignée par la Cour suprême pour faire le jour sur la responsabilité du gouvernement israélien, à commencer par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Michel Paul à Jérusalem.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce matin des avancées au lendemain de pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens, mais a estimé qu'il fallait beaucoup plus pour parvenir à une paix réelle avec la Russie.
Oui, les discussions doivent se poursuivre et certains points les plus sensibles, comme les questions territoriales, doivent être abordés directement entre Donald Trump et le président ukrainien, a dit hier le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Alors que Donald Trump semblait avoir lancé un ultimatum à l'Ukraine, sommet d'accepter son plan avant jeudi, les États-Unis semblent plus enclins à discuter. De son côté, le Kremlin affirme n'avoir reçu aucune information, mais Sylvain Tronchet, la presse russe accueille très froidement les derniers développements.
Le Kremlin affirme qu'il n'a pas été tenu informé des derniers développements de ce week-end. « Nous n'avons rien reçu officiellement », affirme ce matin Dimitri Peskov. Il reste en fait dans la position attentiste qui prévalait à Moscou ces derniers jours. Mais la presse russe donne le ton. « Les Ukrainiens sont prêts à faire dérailler le plan de paix », titre les Izvestia. Pour le tabloïd Komsomolskaya Pravda, Zelensky et l'Europe ont présenté des exigences fantaisistes. Son concurrent, Moskovsky Komsomolets, ajoute « Selon toute probabilité, le gang ukrainien européen va corriger le plan Trump au point qu'il va devenir totalement inacceptable pour la Russie. Selon Commerçante, plus mesuré mais sur la même ligne, la poursuite du processus de paix dépend maintenant de la préservation, dans la version finale du plan Trump, des accords conclus par les dirigeants russes et américains lors du sommet d'Anchorage. Et Rossiyskaya Gazeta désigne les coupables de cet éventuel échec, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui mènent une guerre contre la Russie qui ne dit pas son nom. La télévision parle, elle, des fantasmes des Européens et un expert cité dans la presse écrite, un brin désabusé, note que cette situation s'est déjà présentée 3 ou 4 fois. Nous nous disions « c'est incroyable, les Américains ont accepté tout ce que nous voulions » et puis nous savons comment cela s'est terminé. Il n'y a pas de raison de penser que ce sera différent cette fois-ci.
Merci à vous Sylvain Tronchet à Moscou. Comme convenu, nous sommes en ligne avec notre invitée Maud Kessard, directrice du domaine Europe, espace transatlantique Russie. À l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonjour madame.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Entre l'altercation mémorable avec Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche en février dernier, puis une rencontre plus cordiale en août, le sommet d'Anchorage dont Sylvain Tronchet parlait à l'instant, au cours duquel il avait déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine, puis des déclarations véhémentes contre ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, on peut avoir légitimement l'impression que le dévoilement de ce plan de paix à la fin de la semaine dernière constitue seulement le dernier revirement de Donald Trump au sujet de l'Ukraine. Est-ce le cas ou peut-on, au contraire, Maud Kessard, estimer que ce document est fidèle à une position constante de l'administration Trump sur ce conflit ?
Alors, je pense que votre question est très intéressante parce qu'il faut distinguer les gesticulations de la diplomatie spectacle dont le premier animateur est le président Trump lui-même de des avancées ou des manœuvres qui sont faites par son administration. Parce que dans ce dossier, on a pu le voir encore ce week-end, il y a plusieurs hiatus entre le président lui-même, qui est d'ailleurs resté un petit peu en retrait, et les membres de son administration qui ne sont pas complètement à l'aise avec ce plan Trump. les membres de l'administration ne le sont pas véritablement et les membres du Congrès le sont encore moins. Donc on comprend qu'on a finalement plusieurs couches dans ces représentants américains qui se positionnent sur ce dossier, et le seul qui est constant dans sa position vis-à-vis de la Russie, c'est le président lui-même, qui effectivement, à grand renfort de diplomatie spectacle lors d'Anchorage, avait manifesté toute son admiration aussi et sa volonté complètement renversante sur le plan des alliances traditionnelles depuis 45 de son lien interpersonnel avec Poutine. Donc, ce qui est très surprenant pour nous les Européens, c'est que le plan avancé reprend effectivement plusieurs revendications de Moscou. Ce qui est plus obscur, c'est la façon dont ce plan a été négocié, et ce qui paraît être une constante de cette nouvelle administration, c'est que les experts sont mis de côté, les diplomates en chef, et que ce sont les envoyés spéciaux et les privilégiés des cercles de Trump qui viennent du secteur privé, qui sont aussi à la manœuvre dans la négociation sur un dossier aussi délicat.
Maud Kessar, pardon de vous couper 30 secondes la parole, mais justement ça nous amène à la question suivante. Quels sont les intérêts des États-Unis en Ukraine? Si vous nous dites que ce ne sont pas les diplomates, mais les gens de la sphère privée, on pourrait les nommer, ces intérêts?
Alors, il y a plusieurs types d'intérêts de Washington. D'abord, avant de parler d'intérêts économiques qui sont importants, il y a les intérêts de politique intérieure, puisque l'administration Trump et Trump lui-même n'a que ça comme boussole. Donc, proposer un deal de paix à l'électorat américain avant Thanksgiving, en pleine pré-campagne présidentielle, puisque nous sommes à 400 jours des midterms, et ça, c'est l'objectif du président lui-même, qui est donc en retrait, comme je le disais. Deuxième objectif, dans cette orientation, il est plus économique, puisqu'il y a la question des actifs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. Il y a aussi les bénéfices que les États-Unis pourraient empocher, notamment...
Lors de la
reconstruction, avec des investissements importants. Et puis, il y a aussi un désengagement, donc d'un point de vue géostratégique, un désengagement militaire direct qui était quand même attendu aussi par une partie de l'administration, mais un maintien d'un levier économique et diplomatique très important sur l'Ukraine et sur l'Europe, avec peut-être aussi en ligne de mire pour notamment les soutiens de la tech américaine et des soutiens au président, en ligne de mire la possibilité de deal intéressant avec la Russie elle-même sur les questions donc énergétiques.
En quelques mots, merci d'avance, Maud Kessar. Est-ce que les lignes ont bougé entre l'Ukraine et ses alliés, les États-Unis et la Russie, au fil des discussions qui se sont mises en place ce week-end, en quelques mots, malheureusement?
Alors, elles ont peu bougé sur les 28 points, mais elles sont à l'œuvre. Et aujourd'hui, c'est aux diplomates, et notamment aux diplomates européens, d'être à la manœuvre et de pouvoir amender ce plan en 28 points dans un délai extrêmement contraint. C'est là que l'on va avoir toute la force de la coalition des volontaires. Et donc, si on nous propose une paix américaine qui veut faire taire les armes et fait hurler les diplomates européens, aujourd'hui, le compte à rebours est totalement lancé. Donc, si l'Europe ne réécrit pas ce plan d'ici au 27 novembre, effectivement, elle pourrait en être la première victime. Donc, les diplomates de métier sont à la manœuvre.
Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maud Kessar, je rappelle que vous êtes directrice du domaine Europe-Espace Transatlantique Russie à l'IRSEM. On va rester au chapitre des pressions américaines et nous rendre ainsi au Venezuela. Quelques 15 000 soldats sont déployés dans les Caraïbes. Et aujourd'hui, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son gouvernement seront officiellement ajoutés à la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Les pressions américaines sont là, mais l'opposition vénézuélienne, se tient prête. Franck Madvon a rencontré un de ses principaux représentants à Washington, un proche de Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix.
David Smolensky était maire d'un arrondissement de Caracas quand il a fui son pays pour échapper à la répression du régime Maduro. Il vit depuis 8 ans en exil à Washington, où il fait le lien entre l'opposition dirigée par Maria Corina Machado et les autorités américaines. Il se félicite de l'opération lancée par l'administration Trump contre le narcotrafic au Venezuela.
Je pense que c'est important que la pression ait augmenté sur le régime et qu'on s'occupe de l'éléphant dans la pièce, à savoir le trafic de drogue au Venezuela. Les seuls régimes régimes actuellement au pouvoir classés organisation terroriste, ce sont les talibans et le cartel de Los Soles. Et c'est la bonne approche.
Le cartel de Los Soles, nom donné à l'organisation dirigée par Nicolas Maduro. David Smolensky ne croit guère au dialogue entre Donald Trump et le président vénézuélien qu'il accuse d'avoir volé les élections l'an dernier.
Maduro a toujours utilisé les négociations pour gagner du temps, diviser la communauté internationale et démoraliser son peuple. Ce n'est pas un homme de parole. Il a eu l'occasion de laisser le pouvoir l'an dernier. Nous serions déjà en transition, mais son régime a décidé de tuer, de réprimer des milliers de Vénézuéliens innocents.
David Smolensky assure ne pas savoir si les Américains vont frapper le Venezuela. Notre rôle, dit-il, est de nous tenir prêts à la transition.
Quelques mots de la météo pour fermer cette édition. Météo de l'après-midi, humide des Pyrénées au Jura, puis tout au long de la façade atlantique, instable dans le nord, de très timides et brèves apparitions du soleil. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, la technique Jean-Guy Linmège.